Bienvenue à notre exploration du jour. Paris, on pense souvent en ville-lumière, mais aujourd'hui, on va regarder Paris comme une ville de mots. Son histoire littéraire est tellement riche.
Tout à fait. On va essayer de suivre l'évolution de cette ville littéraire à Paris, comment la ville est devenue ce pôle d'attraction pour les écrivains au fil des siècles.
C'est fascinant comme idée. Pour comprendre ça, j'imagine qu'on doit commencer par le commencement, l'université peut-être?
Exactement. Faut remonter au Moyen Âge, le 12e, 13e siècle. L'Université de Paris s'impose déjà comme un centre intellectuel majeur, le plus gros au nord de la France.
Donc, la base est intellectuelle.
Oui, puis aussi la langue. Le dialecte parlé à Paris, il est adopté par la cour royale. Ça aide beaucoup à centraliser les choses, linguistiquement parlant.
D'accord, une double fondation, savoir et langue. Et j'imagine qu'au 16e siècle, avec l'humanisme, ça prend encore de l'ampleur.
Mais oui, Paris devient vraiment le cœur battant de l'humanisme en France. En plus, l'État se centralise de plus en plus à Paris, fait que culturellement, tout converge vers la capitale. C'est là que ça se passe, tu sais.
Le 17e siècle, lui, semble amener plus de structure. On pense à une certaine institution.
Ah oui, moment très important. 1635, Richelieu fonde l'Académie française. C'est une volonté claire de codifier la langue, la littérature.
L'Académie, oui.
Mais en même temps, on voit apparaître les salons parisiens. Eux, c'est plus informel, mais ça va devenir des lieux centraux pour la vie littéraire.
C'est intéressant, ce contraste entre l'officiel et l'informel. Mais à cette époque, est-ce que Versailles, avec Louis XIV, ne vole pas un peu la vedette?
Et au 18e, le siècle des Lumières, est-ce que Paris reprend le dessus?
Ah oui, clairement. Louis XV, Louis XVI, ils sont moins mécènes. Le cœur de la vie intellectuelle, il bat vraiment à Paris. C'est l'âge d'or des salons.
Les fameux salons.
Exact. Chez Madame de Lambert, Madame de Tessin, c'est là que les idées nouvelles circulent. Montesquieu, Marivaux, Fontenelle, ils se croisent là. L'esprit des Lumières se forge beaucoup dans ces salons parisiens.
Et quand on dit « esprit parisien » à cette époque, il y a un nom qui vient tout de suite.
Voltaire, probablement. Son esprit, son ironie, sa façon de critiquer, il représente bien ça. Mais attention, tout le monde n'aime pas cet esprit parisien, hein?
Ah non.
Pense à Rousseau. Lui, il critique fort la ville de bruit, de fumée et de boue qu'il dit, il la fuit, même s'il finit par y revenir. C'est une relation complexe, amouraine, que beaucoup d'écrivains ont eue avec Paris.
Cette tension est intéressante. Arrive le 19e siècle, post-révolution. Ça change quoi pour la littérature?
Ça change beaucoup. La littérature, disons, elle se démocratise un peu. Les sujets deviennent plus sociaux, politiques. On écrit pour un public plus large. L'écrivain s'engage plus.
Et la carte littéraire de Paris, elle bouge aussi au début du 20e siècle. Ce n'est plus juste le quartier latin.
Non, ça se déplace. La vie littéraire investit Montparnasse. T'sais, avec les cafés comme la Closerie des Lilas, ça attire des poètes, des artistes, Max Jacob, Fargue.
Uh-huh.
Mais aussi le Palais Royal, avec Cocteau, Colette. Montmartre inspire Aimé. Céline parle du passage Choiseul. Chaque quartier prend une couleur un peu différente.
C'est aussi le moment où Paris devient cette espèce de phare pour les écrivains étrangers. Pourquoi ils viennent tous là?
Surtout dans les années 20, là. C'est l'effervescence. Il y a ceux qui cherchent l'inspiration, une liberté qu'ils ne trouvent pas chez eux, comme Hemingway, Henry Miller, Anais Nin.
Une liberté de mœurs aussi, peut-être?
Oui, et d'expression. Et d'autres, comme D.H. Lawrence ou James Joyce, ils viennent y trouver refuge, un endroit où publier des livres qui sont censurés ailleurs. Paris s'est vu comme la capitale de la modernité et de la liberté pour les artistes.
Fascinant. Et après la Deuxième Guerre, un nouveau quartier prend le relais?
Oui, là, c'est le moment de Saint-Germain-des-Prés. Les caves, les cafés célèbres, les deux magots, le flore, ça devient le centre de l'existentialisme.
Sartre, Beauvoir.
Exactement. Eux, mais aussi Boris Vian, Prévert. C'est un autre chapitre qui commence, avec une autre ambiance.
Donc, si on regarde toute cette histoire, on voit comme un déplacement constant des centres littéraires. Hein? Quartier latin, le Marais, Montparnasse, Saint-Germain.
C'est ça. Une géographie qui bouge tout le temps. Mais chaque époque laisse sa marque. Encore aujourd'hui, tu te promènes, tu vois des plaques partout qui rappellent qu'un tel écrivain a vécu ou travaillé là. La ville est comme un livre d'histoire littéraire à ciel ouvert.
C'est une belle image. Voilà, donc un survol rapide, mais qui montre bien Paris comme un vrai écosystème littéraire, toujours en train de changer, depuis l'université médiévale jusqu'au café des années 50.
Un écosystème fait de lieux, de personnes, de débats et de cette attraction un peu magnétique sur la création.
Ce qui m'amène à une dernière question, peut-être pour réfléchir. Aujourd'hui, avec le numérique, les échanges mondialisés, est-ce que cet esprit de Paris, ce mélange unique d'histoire, de culture, d'effervescence, est-ce qu'il influence encore la création littéraire?
Bonne question. Est-ce que l'âme littéraire d'une ville comme Paris peut survivre ou se transformer à l'heure du virtuel? Le mythe parisien, est-ce qu'il opère toujours sur les écrivains d'aujourd'hui?
C'est une piste intéressante à explorer.
Oui, ça laisse matière à réflexion, c'est sûr.